Bonjour, à l'heure que nous arrivons de vos travaux qui ont débuté ce matin, il m'appartient un quart d'heure, 2 minutes, de vous parler d'un aspect que vous avez assez peu abordé, je crois, jusqu'à maintenant, qui est l'aspect sanitaire des choses, et de voir effectivement, pour les mineurs, dès lors qu'il y a des contestations qui vont exister dans leur façon d'être soignés, comment nous pouvons réagir au regard du droit, au regard de la justice, et plus particulièrement, ça sera mon angle de présentation, au regard des professionnels de santé. J'anime au barreau de Lyon la commission de droit de la santé du barreau de Lyon, je fais que le droit c'est de faire, et c'est là-dessus qu'on aimerait me donner quelques éclaircissements. Alors, c'est vrai que les acteurs de santé, vous savez qu'il y a 3 grandes professions dans les professions médicales, que sont bien sûr les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes. Et puis, il y a l'organisation, bien sûr, de la fonction publique hospitalière. Eh bien, ces acteurs de santé sont témoins assez souvent, évidemment les témoins un peu privilégiés, des dérives sectaires, parce qu'ils sont en présence de personnes qui ont une altération de leur conscience, soit par le jeune âge, pour les mineurs qui sont des nôtres, soit aussi par la maladie qui est la leur, parce qu'il y a donc un débat entre personnes sachantes et souffrantes, et puis aussi parce que le monde, et je dis bien le monde des dérives sectaires, et pas des sectes, le monde des dérives sectaires aime le fric, pour dire les choses très simplement, car ils sont souvent condamnés d'ailleurs sur des fondements également d'escroquerie. Et il y a donc tout un évitement du monde médical qui est parfois prôné, pas par tous, par certaines de leurs organisations. Et à partir de là, effectivement, les médecins, on peut penser à l'affaire Hammer qui a occupé la région Rhône-Alpes pendant un certain nombre de temps, les professionnels de santé sont en première. Alors évidemment, les professions de santé sont des professions réglementées. Vous le savez bien, ils ont des ordres professionnels, ils ont des codes de déontologie, ils ont des règles à respecter dans le cadre de leurs obligations. Et je vous propose d'intervenir avec un plan binaire qui est celui-ci. Quelles sont les obligations des acteurs de santé lorsqu'ils sont confrontés à un mineur qui va subir des dérives sectaires qui vont rejaillir sur leur état de santé? Quelles sont leurs obligations? Et puis, dans un deuxième point, nous verrons effectivement quel est le concours que les médecins, les professionnels de santé peuvent apporter à l'autorité judiciaire et de façon générale au pouvoir public. Alors, leurs obligations, tout d'abord, parce que quand on écoute, quand on essaie de réfléchir, on voit souvent que dans ce qui se dit, on fait les médecins. Ils s'occupent assez peu de tout ça, et ils ne veulent pas voir ce qui est criant, et ils s'occupent de toute autre chose que de venir en aide aux victimes des dérives sectaires. Personnellement, je ne crois pas du tout que ça soit le cas, et surtout, je crois, au vu de la réglementation et de la loi, qu'ils ont des obligations en pareil. Alors, la première obligation, qui est une très belle obligation, le texte est très beau, c'est l'article 43 du Code de déontologie médicale qui nous dit « Le médecin est le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. » C'est donc cet article 43, ou qui est repris un peu partout par l'article 29 pour les chirurgiens-dentistes et qui est repris également pour les sages-femmes. C'est donc un impératif, c'est ce que je veux bien faire comprendre pour un médecin, effectivement, d'intervenir, d'être actif, de ne pas rester attentiste lorsqu'il est en présence d'un enfant, à la suite d'un examen clinique par exemple, à la suite d'un entretien, d'une consultation qu'il va donner, lorsqu'il peut penser effectivement que cet enfant est atteint de troubles médicaux dus à des problèmes sectaires, il doit agir, et agir, nous le verrons tout à l'heure, de façon très précise. Plus que ça, lorsqu'on s'écarte et lorsqu'on continue dans les codes de déontologie des médecins, il y a même, c'est l'article 51 pour les médecins, une obligation d'immixtion dans les affaires de famille et dans les affaires privées. Vous savez, le principe c'est l'inverse, les médecins s'occupent de médecine, ils ne s'occupent pas des problèmes de famille. Mais si on est en présence d'un enfant, effectivement, qui a des difficultés, des souffrances, qu'elles soient physiques ou psychiques, le médecin, par les obligations qui sont les siennes de son cours de déontologie, s'immiscer dans les affaires de famille de façon terrestre. Le mécanisme qui a été mis en place s'est simplifié depuis très peu de temps, c'est-à-dire depuis 2004, et je crois que ça mérite d'être souligné. Avant 2004, quelles étaient les données du problème? Alors, on a une loi, qui, je crois que vous en avez parlé ce matin, qui est du 2 janvier 2004, qui est une loi sur la protection de l'enfance et le secret médical. Avant, les acteurs de santé disaient « Oh, nous, on est soumis au secret médical, au secret professionnel. » Et à partir de là, sur tous ces problèmes qui ne concernaient pas strictement la médecine, nous nous taisons, ni plus, et nous passons à autre chose. Aujourd'hui, cette loi qui est arrivée bien tardivement, il faut le reconnaître, nous dit exactement que le secret médical n'a plus lieu d'être en présence, et le texte est très précis, en présence effectivement d'atteinte à la santé des mineurs de moins de 15 ans. Le texte dit, je vous le lis, ça a retouché l'article 226.13 alinéa 2 de notre code pénal, exception au secret professionnel en faveur du médecin qui, alors, quand on est en présence d'un majeur ou de quelqu'un de plus de 15 ans, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des sévices, des privations qu'il a pu constater sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession, et il est indiqué, lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire. Patient. C'est dire que maintenant, depuis cette loi, il y a une obligation légale, et non plus seulement déontologique pour le médecin, en présence d'un mineur de moins de 15 ans, de dénoncer des faits au procureur de la République afin qu'il puisse mettre en place des mesures de sauvegarde de justice. L'Ordre national des médecins, c'est pareil pour l'Ordre des chirurgiens dentistes, dont une de ses représentantes, sa présidente, est dans notre salle. L'Ordre des médecins, sur son site internet, a mis en place des formules, effectivement, pour que le signalement soit fait dans les règles de l'art, et c'est donc une obligation pour ces médecins de faire ce signalement. Alors, pour moi qui passe mon temps à défendre les médecins qui ne le font pas. Qui s'occupent de golf, qui s'occupent de gastronomie au lieu de s'occuper des obligations qui sont les leurs, sont passibles soit des tribunaux de la République, soit de l'ordre des médecins ou des chirurgiens dentistes, qui ne sont pas des juridictions très communes, comme vous le savez. Observation dernière sur le plan des obligations des médecins, on a effectivement, et vous en avez parlé ce matin, mis en place ce qu'on appelle la loi Kouchner, la loi du 4 mars 2002, qui est une loi en faveur des malades, mais aussi de la qualité des soins qui sont donnés, par les acteurs de santé. Et cette nouvelle loi prend en considération les mineurs, avec une notion qui est très intéressante, qui est une notion de discernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle majorité médicale qui est donnée en faveur de tout mineur, dès lors que ce mineur a un discernement. Il n'y a même pas un problème d'âge, on ne dit pas c'est 15 ans, puis 15 ans, 15 ans, non. Dès que le mineur a un discernement, le mineur est en droit de dire à ses acteurs de santé, je ne souhaite pas que les détenteurs de mon autorité parentale connaissent mon état de santé, comment les choses vont se passer. Alors, heureusement pour la défense des mineurs, il a été fait exception à ce principe général de la loi Kouchner à l'article L1111-4 alinéa 5, qui nous dit que pour les mineurs, lorsqu'on est en présence de soins indispensables à leur santé, les médecins, le corps médical, peut, même si le mineur s'y oppose, bien sûr, penser à notre mineur a pris dans des dérives sectaires, évidemment, ou même si les gens qui ont l'autorité parentale, dès lors qu'eux-mêmes sont également pris dans des dérives sectaires, eh bien, lorsqu'on est en présence d'un mineur, cet article permet effectivement de donner les soins indispensables que l'adulte ne veut pas donner. C'est quelque chose de très important, ce texte-là, pour la défense des intérêts des mineurs, parce que vous avez connu le débat très général sur le refus de soins qui a alimenté nos tribunaux, mais je crois que c'est pareil dans d'autres pays européens, qui ont occupé nos tribunaux sur les jurisprudences des témoins de Jéhovah, effectivement, où il plaidait très utilement avec des dossiers, comme disait l'un de nos intervenants, très bien faits, très ficelés, très techniques, qui disaient effectivement la loi Kouchner a donné aujourd'hui, dans le cadre de la démocratie sanitaire qui est enfin arrivée dans ce pays, a donné une égalité entre le sachant et le souffrant, et on peut donc tout à fait dire à ces médecins, vous voulez faire tel traitement, me faire telle transfusion sanguine, je refuse ce genre de choses, et à partir de là, vous devez respecter mon refus de soins. Alors on sait que le Conseil d'État, au-delà des mineurs, a été très embêté sur cette question et a pris une position le 16 août 2002 qui permet effectivement, quelles que soient les dispositions de la loi Kouchner qui était applicable à cette affaire, qui était effectivement de dire que sous certaines conditions, alors elles sont de trois natures, lorsqu'on a tout fait pour tenter de convaincre la personne, lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions alternatives pour les soins, et lorsqu'il y a une proportion entre l'acte que l'on va faire sans le consentement et l'état de santé de la personne, il faut que la personne soit quasiment mourante, et bien dans ces cas-là, effectivement, on peut aller au-delà du refus de soins et faire triompher le droit à la vie, quel que soit le droit reconnu aux patients de s'opposer aux soins. On voit que ce sont là des problèmes importants parce que, effectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui, le corps médical a une obligation de soins à l'égard des mineurs, même si le mineur s'y oppose et même si la famille s'y oppose, dès lors que le pronostic vital est en jeu. Voilà ce que je voulais vous dire sur les obligations qui pèsent sur le corps sanitaire. Alors, j'allais dire aux uns et aux autres à les faire respecter. Je vous dis bien, les médecins sont passibles des tribunaux de la République et s'ils ne respectent pas leurs obligations, qui sont très nettes, enfin depuis 2004, il est effectivement possible d'agir. Deuxième élément rapide, comment le médecin peut apporter son concours à l'œuvre de justice et au pouvoir public de façon générale. Alors, on l'a vu de façon, je crois, déjà assez avancée dans le cadre de vos travaux, la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, qui est applicable en France depuis 1990, comporte un article qui est tout à fait précis, qui est l'article 24, qui reconnaît effectivement l'état de santé comme étant l'un des états qu'on doit respecter au profit des enfants. Alors, cet article dit exactement, les États partis reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé de droit d'avoir accès à ces services. Donc vous voyez que ce texte, qui est un texte international, ratifié par la France, applicable depuis 1990, est un de nos textes maintenant majeurs dans la défense de l'état sanitaire des enfants et qu'il convient de le faire jouer devant les tribunaux lorsque l'on est en présence de procédures qui peuvent toucher effectivement ces enfants. Nos médecins et nos parties, j'allais dire dans le cadre d'un procès, doivent aussi recourir à des expertises médicales judiciaires, car dans le cadre effectivement de l'assistance éducative, l'un des pouvoirs du juge des enfants est effectivement d'ordonner des expertises. Et l'on constate bien souvent sur les problèmes d'absence de soins efficaces à l'égard des enfants qu'on recourt beaucoup à des expertises psychologiques et pas assez peut-être, je laisse ça à votre réflexion, à des expertises médicales ou psychiatriques, ou tout au moins qui touchent la science médicale à proprement parler, pour effectivement voir si il y a eu une assistance médicale conforme ou non conforme à l'intérêt de l'enfant. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons au plan européen, on vous en a parlé, et au plan interne également, nous avons une conception assez large de l'état de santé des mineurs, en général de toutes les personnes humaines, vu qu'on parle des atteintes physiques, bien sûr, mais psychiques également, qu'on en est aujourd'hui dans le cadre de contrôle des pratiques, et normalement des pratiques alimentaires, car il y a dans les problèmes sectaires beaucoup d'atteintes, notamment dans le cadre des aliments, et effectivement, il faut s'intéresser dans le cadre d'expertise judiciaire à ces problèmes-là. On est aussi bien souvent dans des respects fondamentaux des mineurs, qui est un respect à l'épanouissement, qui peut faire partie également d'expertise psychiatrique, et également même dans le contrôle des idées d'éducation, qui, tout en respectant la libre opinion de chacun, doit quand même aussi respecter ce qu'il ne faut pas oublier dans le cadre du droit interne, tout simplement l'ordre public sanitaire français, qui est aussi respectable dans le cadre de notre pays. Voilà donc très schématiquement hein, les réflexions que je voulais vous apporter sur le rôle des acteurs de santé. Je crois qu'il faut connaître ces éléments, les invoquer pour gagner devant les tribunaux, parce que c'est un combat de dossier à dossier, comme on vous l'a dit. Et même si c'est une note un peu pessimiste, pour moi c'est une note, moi je dirais, de réflexion, je crois qu'il faut aussi s'interroger sur une toute nouvelle loi qui est la loi qui a suivi l'affaire Imbert que nous avons tous connue dans les grandes presse, qui est la loi du 22 avril 2005 sur le droit des malades et la fin de vie de façon générale. Il y a là de nouveau, de façon galopante, une volonté du législateur, effectivement, de redonner un pouvoir complet aux malades sur les traitements qui peuvent être mis en œuvre, et donc, par voie de conséquence, de priver de certains traitements un certain nombre de mineurs. J'en veux pour preuve qu'on distingue dans cette loi effectivement les malades conscients des malades inconscients. Pour les malades conscients, c'est là où véritablement il y a des difficultés, parce que la malade conscient peut aujourd'hui mettre fin aux soins, peut demander qu'il soit mis fin aux soins. Et la plupart des commentateurs de cette loi disent qu'on peut mettre fin, c'est l'article 3 de la loi, à tout traitement. Or, en médecine légale, hein, les professeurs de médecine légale et les professeurs de droit nous disent bien que la conception du traitement est ici présentée de façon large, avec une acception très large, qui concerne également les problèmes d'hydratation et d'alimentation. Ce qui veut dire par là que, par le truchement de cette loi, on pourrait effectivement imposer au corps médical et à l'ordre public sanitaire français de nous laisser mourir si telle était notre volonté, avec certes quelques conditions et quelques limites, mais qui sont bien minces.
Bien, merci. Alors, on va s'accorder 10 minutes de petit débat sur ces questions sur les obligations des médecins ou sur le contenu qu'on peut apporter, deux personnes, madame et monsieur. Voilà. Et ensuite, deux personnes.
La DFI Lyon, et nous avons souvent affaire à des jugements pour la personne, le conjoint qui n'est pas témoin de Jéhovah, pour avoir la garde des enfants. Et ce que j'aimerais, c'est que les avocats, au lieu de, comment dire, de dénoncer les pratiques des témoins de Jéhovah, qu'ils en viennent à la santé de l'enfant. C'est-à-dire, il n'y a pas de fête de Noël, il n'y a pas de fête des mères, il n'y a pas de transfusion, d'accord ? Et il n'y a pas de vaccination. Et bien là, les adhérents ont perdu, la femme a perdu le procès parce que l'avocat a plaidé uniquement sur le contenu des règles des témoins de Jéhovah. Et je trouve que c'est ridicule. Si on met simplement la santé de l'enfant en premier, on arrivera très bien, à mon avis, de tenir la garde de l'enfant par le conjoint qui n'est pas témoin de Jéhovah. Si vous pouviez passer la consigne, ce serait bien.
Donc, madame. Mais de votre côté, je vous relance aussi la balle du côté des associations. Pour gagner des procès, on a aussi besoin que soient rassemblées des communications scientifiques. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de témoignages de bonne volonté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un professeur agrégé des universités, un expert national au tableau de conversation, voyez, un nom du monde scientifique européen, vienne dire les problèmes que les enfants des témoins de Jéhovah peuvent rencontrer. Le dossier Hammer qui a été gagné au plan français a permis d'avoir deux témoignages scientifiques du professeur Philippe, que l'on connaît tous ici, qui est un grand cancérologue, et du professeur Schmitt, qui est son pendant à Strasbourg. Et c'est parce que sur le plan scientifique, on a pu démontrer une chose que les juges qui aiment ce type de débat nous ont donné aussi.
Je voulais juste.
Mais attendez, il y a une question. Merci, monsieur.
J'aurais pu juste entraîner une difficulté.
Madame le président de l'État, je ne peux bien entendu que confirmer tout l'intérêt de l'exposé que nous a fait Maître Choulet. Nous connaissons bien, et surtout en déontologie médicale, je rejoins entièrement ses conclusions, notamment quant aux nécessités de signalement, mais en insistant peut-être sur un point, c'est que les possibilités de signalement ont été élargies. Mais il s'agit toujours de faits qui doivent être signalés, de sévices ou mauvais traitements, dont on peut effectivement élargir la définition, en particulier sur le plan des souffrances physiques ou psychiques. Mais le médecin problèmes de santé ne poussent bien les que des fêtes. Donc je pense que cela ne dispense pas, bien au contraire, de tout l'aspect de la prévention des attaques vis-à-vis des mineurs, dans la mesure où les signalements ne pourront pas agir véritablement sur le plan de la prévention. Et c'est peut-être là où on retrouve d'ailleurs la loi d'avril 2005 sur le droit des malades et fin de vie, dans la mesure où il y aura certainement à veiller à ce que l'application de cette loi se fasse selon ce qui a été écrit et que son application ne soit pas déportée par interprétation d'un certain nombre de ses dispositions, par ailleurs tout à fait louables. Donc finalement, je pense que pour les médecins, les problèmes de traitement en urgence ont été incontestablement améliorés ces années dernières, notamment vis-à-vis des mineurs, avec ce que vous avez dit sur la loi de 2002. La nécessité pour les médecins de signalement approprié sont également facilitées et effectivement, il faut que les médecins signalent les faits anormaux qu'ils constatent, donc ils aillent un peu au-delà parfois des réserves qu'ils avaient, parce que ce n'est jamais très facile de faire des signalements dans certaines circonstances. Mais que par ailleurs, il y a toujours un problème de prévention et entre autres au niveau des soins, les problèmes liés aux proches et à l'entourage des malades, y compris mineurs, contre lesquels médecin reste
dénommé.
Merci.
Madame Lydia, bonjour, ici.
Voilà, juste pour rajouter à ce que disait Yvette Genesis de Lyon, je voulais juste dire quelque chose d'important, ce que vous avez dit, enfin, ce qui me semble important pour nous, toujours dans ces centres d'accueil, vous m'avez parlé de bilan psychologique, c'est-à-dire d'expertise psychologique de l'enfant. Et vous avez parlé, on en fait bien trop, mais ce serait mieux qu'on fasse.
On aille un peu plus vers la médecine parfois.
Voilà, et ça, ce serait. Alors là, je pense que là, ce serait bien mieux. Mais comment peut-on le faire? Parce que moi, au centre d'accueil, je suis également confrontée, et les bilans psychologiques reviennent, les expertises, quelquefois complètement bateaux pour ces enfants. Donc, ce bilan, je dirais, de santé, donc avec un bilan psychiatrique, également sur la santé physique et mentale de l'enfant, parce que dès l'instant où vous allez entendre l'enfant par un psychiatre, on voit très bien que cet enfant, bah, il est complètement dans un autre monde. Il va réciter, je dirais, toutes les paroles du leader sectaire, puisque finalement, les parents n'existent plus non plus. Alors, comment, là, concrètement, on peut faire sur le terrain, parce que pour moi c'est ça l'important.
Je crois que c'est vrai que c'est très différent, c'est pas pour porter atteinte à la compétence des psychologues, mais les psychologues ne sont pas des docteurs en médecine. La formation n'a absolument rien à voir, et c'est vrai que leur domaine de compétence n'est pas le même. Et il est très difficile pour un juge, si on ne l'éclaire pas un petit peu, de savoir effectivement s'il faut plutôt désigner un psychologue ou un médecin qui peut être un psychiatre, qui peut être aussi un pédopsychiatre, on a encore des pédiatres en France pendant quelques temps encore, on va dire. Donc, il y a sur la liste des experts judiciaires, il y en a un certain nombre, et je crois que c'est à vos avocats, c'est à vous-même, aux associations, de le demander au juge. Et que s'il ne l'accepte pas, il est obligé de nous dire pourquoi il ne l'accepte pas. Et je rappelle que la chambre de l'instruction de la Cour d'appel est là pour veiller un peu à ces débats-là.
Oui, monsieur, allez-y.
La loi rend les vaccinations obligatoires pour l'accès dans les établissements scolaires. La loi a été prise dans l'intérêt de l'enfant. Cependant, un élève capable de discernement, je vous ai bien écouté, peut-il récuser
Oui, tout à fait. De dire, alors, le discernement, je ne sais pas ce qu'on pense les médecins qui sont dans cette salle, c'est autour de quoi un discernement 7 ans, 8 ans, 9 ans, bon, à cette société par cas, il est en droit de dire non, je ne veux pas, mais vu qu'on est en présence d'un mineur de moins de 1 mineur, le médecin, s'il est utile à la santé de l'enfant, peut passer.
Oui, alors, je ne vais pas dire que c'est le médecin, mais je me mets à la place du directeur d'école ou de l'inspecteur du secteur. La loi oblige les vaccinations, sauf contre-indication médicale. Donc, la conclusion, la loi s'impose.
Oui, elle s'impose et il faut saisir effectivement le juge des enfants.
À moins que le médecin soit compétent parce qu'il est dans la secte. Ah ben, c'est ce qui arrive. Hein, moi.
C'est des cas très mineurs, mais qui peuvent exister, ah, oui. Mais qui sont
très ça existe. Qui sont par exception.
Monsieur, et puis attention.
Donc, Pigné, magistrat retraité, délégué du CCNM en Maine-et-Loire. Je crois que ce qui vient d'être dit à propos de l'examen psychologique des mineurs, il faut lui faire une distinction. Au pénal, il y a un examen psychologique et un examen psychiatrique obligatoire. Alors, s'agissant maintenant des affaires civiles, c'est-à-dire des gardes d'enfants après séparation des parents, pour faire vite, je dirais que l'expertise psychiatrique est rare. Elle est rare parce que ça allonge la procédure, ça coûte cher, et la plupart des juges ne peuvent se contenter que d'une enquête sociale, d'une part, et d'autre part, de l'examen psychologique qui est souvent sommaire. Je vous l'accorde. Mais enfin, on ne peut pas tout faire. La justice n'a pas la politique de ses moyens, et ça, je le dis devant les parlementaires ici présents. Par conséquent, on n'atteindra jamais un niveau satisfaisant. C'est dommage.
Michel Gilbert, vous posez un réel problème, les expertises. Bien souvent, nous nous rendons compte que c'est à cause, grâce à des expertises, que des enfants sont remis à des organisations sectaires ou sont remis aux parents qui sont membres de l'organisation sectaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de contrôler beaucoup plus rigoureusement ces professionnels qui, comme chacun sait, la commission de M. André Valigny l'atteste, les experts ne sont pas peut-être les mieux choisis à l'heure actuelle dans notre système judiciaire. Est-ce qu'il n'aurait pas un moyen de contrôler le travail de ces experts pour qu'ils le fassent d'une manière honnête et honorable pour les droits de l'enfant. Parce que lorsque je vois des expertises de parents qui viennent vers moi où on pose la question à un enfant de 2 ans, un expert psychologue clinicien qui demande à un enfant de 2 ans, tu manges des steaks, expliquez-moi la différence entre un steak de soja et un steak de viande de veau pour un enfant de 2 ans. Voilà.
Je ne sais pas si ce n'est pas à nos parlementaires effectivement de répondre, mais ce que je peux vous dire sur le plan du droit positif, c'est que la loi Kouchner contient des dispositions spécifiques sur la réforme de l'expertise médicale. Et on va dire que le grand principe, qui est quand même un principe estimable, même si ça peine un peu à rentrer dans les faits, le grand principe est que la liste des experts judiciaires devrait être revisitée, retouchée tous les 5 ans. Parce que jusqu'à maintenant, on savait bien que quand on avait l'honneur d'être sur cette liste, on pouvait devenir un expert daté. Effectivement. Donc il y a une vraie volonté du législateur d'améliorer les choses sur ce point-là. En revanche, si vous permettez de rebondir sur un point aussi, si on compare par exemple avec le contentieux qui est fait aujourd'hui contre les médecins de la responsabilité médicale, les associations qui luttent contre les fautes médicales se sont très bien organisées avec au sein de leur association ce qu'on avait des médecins de recours. Alors, je ne sais pas si vos associations sont déjà organisées comme ça dans le domaine de la lutte contre les SMA, mais il est tout à fait possible pour vous d'avoir des médecins de recours qui vont être vos conseillers techniques dans le cadre de ces opérations d'expertise. Je répète, c'est les éléments scientifiques et techniques qui priment aujourd'hui.
Oui, je voudrais une dernière minute. Oui, juste dire un mot, parce que je suis tout à fait d'accord avec l'interprétation que vous faites mettre sur le problème qu'on a trouvé sur la vaccination. Là, nous avons deux points qui sont intéressants. Hein, vous avez rappelé le texte, mais il y a aussi l'ordre sanitaire public. Et je crois, concernant la vaccination, que c'est l'ordre sanitaire public qui prime. Et donc, même si vous avez très justement indiqué qu'il y a un droit spécifique pour les mineurs, etc., je pense que là, l'ordre sanitaire public prime. Donc il me semble qu'il n'y aurait pas la possibilité de refuser une vaccination.
Oui, alors, on va passer... Juste une chose, parce que je suis le métier journaliste, donc j'observe, j'écoute, hein, je passe beaucoup de temps avec vous. Je suis quand même assez surpris que pour les enfants, personne ne pose la question des degrés de territoire au niveau du droit à la santé. Moi, j'ai des enfants dans un collège, tous les ans, on est à contrôle médical. Les écoles confessionnelles sous contrat aujourd'hui, il y a des contrôles médicaux. Je ne vois pas pourquoi des enfants qui dépendraient d'institutions que l'on qualifie de sectaires ou autres, de mouvements de ce type, ne pourraient pas, avant d'arriver aux experts, aux tribunaux et tout ça, puissent bénéficier régulièrement d'un contrôle médical. Écoutez, je crois qu'on est dans une république et au-delà, je dirais, des petites... C'est bien d'avoir ce débat, effectivement, sur l'ordre sanitaire public, parce qu'on ne s'en sortira pas. Tout à l'heure, j'ai évoqué le problème de ces hommes qui ne veulent pas que leurs femmes dans les hôpitaux soient soignées par des hommes parce qu'ils sont de confession musulmane. Je veux dire que ce pays va aller à volo si on laisse faire les choses comme ça. Alors, sur le droit des enfants, moi, je pense que, et je le dis aux parlementaires que vous êtes, je pense qu'il faudrait, vous voyez, il y a même un débat avec un avocat de renom sur la place lyonnaise, et on n'a pas la même approche que la pratique du droit commun. Je parle du droit commun. Et là, sur ce plan, le problème du droit des enfants, avant de jouer sur la jurisprudence européenne, etc., il y a des règles d'or, des règles simples. Et je trouve qu'on n'est pas assez exigeant sur ce plan d'un point de vue républicain. Voilà ce que je voulais dire au passage. On le permet.
Je peux dire quelque chose là-dessus, ça tombe très bien. Alors là, vraiment, je trouve que vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important. Ça tombe bien, je salue le préfet qui représente M. Lacroix, le préfet du Rhône, le préfet de la région, qui nous fait l'amabilité de terminer ses travaux, nos travaux avec nous. Moi, je suis d'accord avec vous, M. Michel. Mais si effectivement l'État joue bien le jeu, c'est-à-dire joue sur l'ensemble du territoire, ça exerce sa responsabilité en matière de santé scolaire. Mais nous n'en sommes pas là. Il y a même que... Peut-être parler comme ça, ça sera aussi bien. J'ai encore eu, il n'y a pas très longtemps, alors c'est au niveau élémentaire, mais si déjà au niveau élémentaire, nous n'avons pas la santé scolaire nécessaire pour accompagner et suivre tous les enfants, on sera déjà en retard. Et alors pour les collèges, écoutez, sur Saint-Priest, il y a 3 collèges, on a une infirmière et demie. Et encore. Non mais vous imaginez comment elles peuvent faire les pauvres. Elles font ce qu'elles peuvent. Donc déjà, de toute façon, en matière de droit commun, comme vous dites, parce que je vous rejoins sur ce que devrait être l'engagement de l'État, c'est aussi une part de la sécurité de l'enfant. Et c'est pas assuré. Donc vous voyez, faisons attention à la façon dont on parle et dont on approche la réalité, mais vraiment la réalité au cœur des territoires, parce que cette réalité-là, pour l'instant, et ça date pas d'aujourd'hui, je ne veux pas faire de la politique politicienne, c'est quand même relativement ancien. La santé scolaire a toujours été le parent pauvre de l'éducation nationale, ça l'est malheureusement encore, même s'il y a eu quelques créations de postes il n'y a pas très longtemps, mais on est très loin du compte. Alors, ne serait-ce que pour accompagner les parents, et puis justement, éventuellement, pour lutter, c'est l'autre aspect, c'est celui qui rejoint nos travaux d'aujourd'hui, et bien pour lutter, pour protéger l'enfant contre un certain nombre de dérives ou de conséquences liées à des décisions de dérives sectaires. Je crois qu'il faut quand même avoir cette approche-là.
Sans rallonger le débat, je vais dire à ce que dit Martine David, c'est pas trop étonnant d'ailleurs. Et par rapport à ce que vous disiez, M. Michel, moi je ne voudrais pas que la place des magistrats en ce moment. Parce que entre la loi Kouchner, la loi Leonetti, etc., on voit bien l'intention, c'est donner plus de droits à la personne, y compris le droit à la vérité quand elle est accidentée. Vous savez bien qu'il y a des gens qui passaient de vie à trépas, qui étaient intéressés pour savoir qu'est-ce qui leur valait ce départ, anticiper de la vie, mais sans avoir le droit de le savoir, de fait. Donc, on a essayé d'améliorer la situation, Mais vous voyez bien, c'était donc plus de droits pour la personne, mais en même temps, on vient se télescoper. Alors, on y apparaît avec la loi Abou-Picard, pour rester dans notre sujet, y compris en donnant la dimension manipulation mentale et donc la possibilité de passer. Mais si je prends un exemple, en vous écoutant tout à l'heure, le maître Chouet, je pensais à Bobissin. Si vous vous rappelez cette affaire, hein, c'était sous le règne, plutôt la férule, de Thatcher, Bobissin, c'est irlandais, fait la grève de la faim. Pour des raisons politiques, il ne fait pas la grève de la faim pour mourir. Il fait la grève de la faim pour faire pression sur le pouvoir politique, pour faire entendre le propos qu'il tient dans le cadre d'une confrontation politique très difficile. Jusqu'à présent, chez nous, vous faites la grève de la faim, vous êtes surveillé par des médecins, et puis que ça ne vous plaise pas, on vous perfuse pour que vous ne mouriez pas. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Boris Johnson. Thatcher a dit, c'est sa liberté de mourir. Il veut, celui qui a essayé de faire la grève de la faim, ben il mourra. Et il est mort. Donc, on voit bien que là, on vient se télescoper et ou bien il va y avoir la jurisprudence qui éclaircit ça. Alors, point au risque de faire d'appel aux magistrats qui sont là, je préfère ne pas laisser les magistrats faire la loi à la place des parlementaires. Ce n'est pas une vision corporatiste du sujet, mais si je raisonne par analogie, pourquoi avons-nous dû légiférer il y a 2 ans sur la laïcité? C'est parce que, tout simplement, le Conseil d'État avait donné une interprétation aux lois de 1803-1905 qui trahissait l'esprit de la loi. D'ailleurs, il y a une magistrat du Conseil d'État qui, lors des auditions, nous avait dit, vous êtes bien ici, le Conseil d'État a réinterprété, redéfini, c'était le terme, la laïcité. Martin David était aussi à la commission de Bray. Donc vous voyez, il y a un vrai problème là, parce que dans le sujet qui nous occupe, on sait bien le rôle de la manipulation, de la mise en condition, et donc le sujet n'est pas libre véritablement de ce qu'il dit. Quant à l'âge du discernement, je l'avoue que moi, ça me laisse dubitatif, parce qu'il y a le fait, puis il y a le contexte aussi qui complexifie singulièrement et qui peut mettre la personne dans un rapport de subjectivité au fait qui est d'une complexité extrême, et je pense qu'il faut, je ne suis pas un extrémiste, je suis un dossier des livres, mais je pense qu'il faut d'abord préserver le droit à la vie, et je pense au contrôle de mettre un chouet, mais je crois que si vous voyez monsieur monter sur le bord de la fenêtre et qui vous dit je vais sauter, vous devez aller l'empêcher de sauter. Sinon, c'est un délit, non? Jusqu'à présent. Bon. Non, ce n'était pas une proposition d'expérimentation que je vous faisais là, mais tout ça pour dire qu'on est arrivé à un degré de conviction. On voit bien que d'un côté, on veut protéger le droit de la personne, ce qui est absolument nécessaire, qui correspond à l'esprit de notre combat, mais ça se télescope, ou bien donc il va y avoir une jurisprudence qui est éclaircie et stabilise, ou bien il faudra probablement relégiférer pour mettre tout ça en cohérence.